Délivrez-vous. Une émission littéraire présentée par Claudine Bugat pour ceux qui aiment lire et ceux qui n'ont pas le temps.
C'est deux ailes.
Bonjour à toutes et tous. Je suis heureuse de vous retrouver cette semaine et je vous propose une belle aventure. Ni dans l'air, ni sur terre, mais sur les mers. Une belle course, une belle route sur les océans avec des passionnés d'aventure, toutes voiles dehors. Pour nous parler de cette aventure qui est la route du Rhum et la course du Rhum également, parce que c'en est une, eh bien un spécialiste, sans doute un aventurier aussi, qui va nous emmener. Allez, on y va, tous à tribord. Bonjour Didier Ravon.
Bonjour Claudine Bugat.
Merci d'avoir accepté mon invitation pour ce magnifique livre-album « La route du Rhum » aux éditions Gallimard. Alors, avant d'entamer la discussion sur ce magnifique livre et l'histoire de « La route du Rhum », eh bien, on va un petit peu parler de vous. Qui est Didier Ravon ?
Alors, écoutez, moi je suis journaliste depuis maintenant longtemps, depuis 30 ans à peu près. En fait, j'ai fait de la compétition après mes études de photographie. En fait, j'ai fait de la compétition. J'ai eu la chance de naviguer, pas sur les grandes transats, pas comme aventurier justement, mais plus comme régatier, notamment lors de la Coupe de l'América. Et puis après la Coupe de l'América, je suis rentré à Voiles et Voiliers, qui est un magazine spécialisé, qui est le leader de la presse nautique. Et puis j'ai commencé comme reporter et je suis passé rédacteur en chef adjoint, puis rédacteur en chef. Et maintenant, je suis revenu sur mes premiers amours, j'ai envie de le dire, notamment le reportage de terrain, et ce qui me permet aussi d'avoir un peu plus de temps libre pour travailler pour le quotidien Libération, pour tout ce qui est épreuve de voile, et pour écrire des livres, comme j'ai eu la chance de le faire sur ces 40 ans de route du Rhum.
Oui. Ah, quand la mer vous tient, elle vous lâche plus, n'est-ce pas ?
Ah ben oui, de toute façon, c'est totalement une histoire de passion.
Moi, bien sûr.
Tout gamin, c'était quelque chose qui me faisait rêver. Alors comme j'ai pas absolument pas les compétences des gens qui font des transats et des tours du monde.
Oui.
Tous ces marins solitaires, le fait de les côtoyer par notre métier de journaliste ou en écrivant ce genre de livre, c'est quand même c'est un privilège et c'est aussi l'occasion d'aller naviguer sur ces bateaux fabuleux sans prendre les risques que eux prennent.
Tout à fait. Alors, en fin d'année 2018, la Route du Rhum a fêté ses 40 ans, puisqu'elle a été créée en 1978. Cette année, le départ, ça a été 122 bateaux voiliers de 12 à 32 mètres, donc c'était un record. Pourquoi aujourd'hui parle-t-on de course mythique ? 1978, la genèse de cette route et cette course du Rhum, quelle est-elle ? Alors, on le rappelle, départ Saint-Malo, arrivée Pointe-à-Pitre en Guadeloupe aux Antilles.
J'ai envie de dire que déjà... C'est une transat qui fait rêver un peu tout le monde dans la mesure où en fait elle part en automne ou quasiment au début de l'hiver en Bretagne et elle arrive après quelques jours à Pointe-à-Pitre où c'est l'été avec les alizés et donc je pense que dans l'imaginaire collectif il y a cette navigation encore une fois qui part d'un endroit dans des conditions en général très rudes. Il faut traverser le golfe de Gascogne en automne et c'est souvent très compliqué. On l'a encore vu cette année.
Oui.
Et après, il y a la route des Alizés. Et puis c'est une transat française. Et puis il faut savoir aussi que la première édition a été malheureusement endeuillée par la disparition d'Alain Colas.
Alain Colas, oui.
Et il y a eu cette arrivée absolument incroyable entre Mike Birch et Michel Malinowski, qui étaient séparés de 98 secondes après 23 jours de mer. Donc... tout ça a créé un petit peu la légende et le mythe et puis il y a tous les grands marins sont passés par cette course et je crois que c'est aussi pour ça que c'est aussi les drames et les joies qui ont, j'ai envie de dire pas malheureusement, mais qui ont en tout cas entretenu ce mythe de cette course, de cette route du Rhum.
Alors c'est vrai, de grands marins, vous le disiez, des joies et des peines, évidemment avec la disparition d'Alain Colas, Loïc Caradec, l'exploit, si ma mémoire est bonne, en 1990, de la regrettée Florence Artaud, également.
Ah oui, pour moi c'est le plus grand...
Oui.
Enfin, pour moi c'est le plus grand exploit du sport français.
Je suis d'accord.
Parce que à armes égales, franchement, battre pas de ces des gens comme Philippe Poupon, comme Mike Birch à l'époque, en ayant été malade pendant le traversée, en ayant plus d'électronique. Enfin, c'était juste une démonstration absolument éclatante. Et alors, là aussi, c'est aussi la victoire de Florence Artaud en 90 qui a continué à entretenir la légende de cette course.
Oui, regretter Florence Artaud. On rappelle qu'elle a disparu il y a quelques années dans un accident pour un jeu télévisé.
Oui, absolument. Oui, un accident malheureusement stupide.
Oui. Stupide, oui. C'était pour moi une grande dame de la mer, mais une grande dame tout court. Voilà, je tenais à le dire. J'avais beaucoup d'admiration pour elle. J'avais eu l'occasion de la rencontrer justement à la suite de cet exploit. Alors, 1978, quel est le créateur, le fondateur, qui a eu l'idée? Ça a été un rêve tout d'un coup qu'on a voulu mettre sur pied. Racontez-nous un peu.
Alors justement, il y a eu pas mal de polémiques sur la vraie création de la route du Rhum, en fait.
Oui.
Et en fait, à la base, c'était deux jeunes industriels qui sortaient d'école de commerce et qui avaient dont l'un travaillait pour la promotion du rhum. L'idée c'était que en métropole on en consomme plus, hein, en gros.
Et, c'est pas mauvais un bon rhum.
De faire une transat.
Oui.
Et donc ils ont commencé un peu à potasser. Et alors pour la petite histoire, l'un des deux s'appelait Florian de Kersauzon, était le petit frère d'Olivier.
Oui.
Lequel Olivier avait déjà un nom, on va dire, assez connu.
On va dire, en parlant de lui, un violon de mer, hein, Olivier de Kersauzon. Hein.
Oui, sauf qu'à l'époque, en 77, oui. Même 76, c'était à cette période-là, oui. Il était encore peu connu. Il avait déjà son franc-parler, il avait déjà de l'entre-gens. Enfin, c'était quand même déjà quelqu'un de...
Un personnage.
C'était déjà un personnage, absolument. Mm. C'était déjà un personnage. Et donc... Florian de Kersauzon, sur les conseils de son grand frère, est allé voir un publicitaire à Paris, hein, et qui s'appelait Michel Etévenon, et qui avait travaillé à l'Olympia, qui était en fait l'imprésario d'Olympia, qui n'était pas du tout un homme de mer, en l'occurrence.
Mm-hmm.
C'était assez étonnant. Pas du tout un homme de mer, mais quelqu'un qui sentait bien les choses, et qui sentait que la voile française était en plein essor. Mmh. Et puis il y avait aussi à l'époque une transat qui avait révélé un certain Eric Tabarly, qui s'appelait la transat anglaise. Mais en l'occurrence, les Français voulaient avoir leur propre course, et etc., etc. Et donc il y avait aussi une espèce de rivalité qui existe toujours, d'ailleurs, entre les Anglais et les Français. Et les Anglais, voyant que les Français commençaient à venir avec des bateaux de plus en plus grands, ont décidé de limiter la taille des bateaux à 17 mètres. Voilà, ils étaient un peu agacés par la folie des grandeurs. En 76, la fameuse transat que remporte encore Eric Tabarly sur un bateau énorme qui était prévu pour un équipage de 15.
Ouais.
Il y avait aussi le Club Méditerranée, qui était le 4 mâts d'Alain Colas, qui mesurait 72 mètres.
Oula.
Et ça, les Anglais, ça les a rendus à moitié fous, et ils se sont dit, bon ben stop, on arrête là. Et réaction très française, hein, très très gauloise, j'ai envie de dire. Et là, ils ont décidé de faire leur propre course, et la route du Rhum est devenue la route du Rhum. Et bon, alors après, c'est un peu plus compliqué, parce que Florent de Kersauzon et Bernard Haas, donc, étaient ces deux copains qui avaient eu cette idée, se sont fait un peu piquer l'idée, on va dire, par Etévenon, qui avait beaucoup plus d'entre-gens, qui connaissait, qui était plus âgé, avait plus de métier, qui s'est associé avec le journal Le Quotidien L'Équipe, notamment à l'époque, pour promouvoir la course, et puis qui a déposé la marque, le titre, et puis qui est devenu l'organisateur. Mais c'est lui aussi qui, en effet, après a fait que cette course est devenue aussi impressionnante. Mais la vraie origine, c'est quand même ces deux garçons.
D'accord, ok. Alors, le début, c'est 1978, c'est tous les 4 ans, bien évidemment, parce qu'il faut beaucoup de temps pour organiser cette course. La prochaine, ce sera en 2022, si je calcule bien.
Absolument.
J'imagine que ça demande énormément d'organisation, de technicité, d'argent. Ils font des sponsors. Je suppose que là, la course terminée, de nouveau, c'est la préparation pour la prochaine. Comment ça se passe? Les marins, est-ce qu'on connaît déjà la liste des marins pendant 4 ans? Comment ça se passe? Est-ce qu'il y a une rigueur vraiment très importante au niveau de l'organisation, du nombre de bateaux, du nom des marins, des sponsors? Comment se passe tout cela?
Alors, il y a deux choses. Il y a déjà un Numerus clausus, normalement qui était de 100, mais cette année ils ont décidé de l'augmenter parce qu'il y avait énormément de demandes et puis ouais. c'est toujours très compliqué.
122 ils étaient, hein, 122.
Un marin à quai alors qu'il ouais. a le bateau, ouais. L'investissement, le budget. Mmh. Mais il faut savoir qu'en général, bon, c'est vrai que c'est une grosse organisation et donc il y a d'une part l'organisation technique de la course, mais qui est relativement, je dirais relativement limpide parce que c'est quelque chose de connu, hein, c'est un règlement de course qui est oui. drastique, c'est des places de port, c'est des choses comme ça, c'est pas ultra compliqué. Et par contre, c'est difficile aujourd'hui, par exemple, il y a aucune liste de participants à la prochaine épreuve. Par contre, quand les navigateurs, entre guillemets, vendent leur projet à des partenaires potentiels ou à un sponsor, ils ont un plan en général qui est un plan quadriennal hein, sur 4 ans et la route du Rhum en fait toujours partie. C'est-à-dire que et après ça dépend un peu. Il y a tellement de disciplines dans la voile. Il y a les ultimes donc qui sont ces gigantesques trimarans de plus de 30 mètres, mais il y a aussi des bateaux plus petits qui sont des classes 40, qui sont des bateaux beaucoup plus accessibles techniquement et financièrement. Et puis au milieu il y a les IMOCA qui sont ces bateaux qui font aussi le Vendée Globe. Et donc quelqu'un qui prépare le Vendée Globe forcément fait la route du Rhum et vice versa. Donc en fait c'est pour ça que la route du Rhum fait vraiment partie des. J'ai envie de dire c'est aussi important pour un marin que de faire une coupe d'Europe ou une coupe du monde oui. de football.
De football, oui, ou même le Tour de France cycliste aussi.
Ou même le Tour de France cycliste, bien sûr, bien sûr, bien sûr. Mm. Oui, alors... ça fait partie des. Ou j'ai envie de dire même les Jeux Olympiques, ça fait partie oui. vraiment de. C'est la route du Rhum, c'est vraiment
l'emblème de la course à
large. C'est l'emblème de la course au large. Tout le monde rêve de la route du Rhum. Et d'ailleurs, la particularité de cette course, c'est ça qui est quand même qu'on n'a pas d'ailleurs dans le cyclisme, dans le foot, dans beaucoup de sports, c'est que un navigateur amateur éclairé, j'entends bien, oui. sur un bateau de série. Pas forcément dernier cri, hein, et pas forcément une Ferrari ou une Formule 1, peut faire la route du Rhum. Et donc il va côtoyer au départ des champions comme François Gabart, comme oui. Armel Lecléache, comme Sébastien Jos, et j'en passe. Donc
marins, oui.
C'est aussi la particularité de cette course, c'est de permettre à des gens...
Moins aguerris
et moins et pas professionnels hein, de partir et donc de tout temps et ça c'est aussi la magie de la route du Rhum, de tout temps il y a eu des amateurs qui étaient assureurs, médecins, dentistes, architectes, avocats.
Peu importe le temps qu'on met, l'essentiel c'est d'arriver finalement.
Exactement, ils ont aucune il n'y a aucun but sportif, l'aventure c'est vraiment l'aventure, l'idée c'est de traverser et on l'a encore vu cette année hein. Il y a des gens qui ont mis le premier a mis à peine 7 jours et le dernier a mis plus d'un mois quoi. Donc,
oui.
Voilà, ça fait vraiment partie aussi de la légende de la course.
Oui, c'est vrai que moi c'est quelque chose qui me plairait pas mal, je reconnais. Voilà, et sans doute que beaucoup de nos auditeurs de C2L seraient sans doute ravis et intéressés de le faire. Alors cette année il y avait donc 122, cette année. Fin 2018, il y avait donc 122 participants, des badauds de 12 à 32 mètres. 12, c'est le minimum et 32, c'est le maximum. Ou aujourd'hui, c'est est-ce que vous racontiez tout à l'heure cette histoire des Anglais qui voulaient mettre le holà sur la taille des bateaux. Est-ce qu'aujourd'hui, il y a des règles à ce niveau-là ou c'est libre?
Alors, j'ai envie de dire que la particularité de la Route du Rhum, c'est un peu ce côté... nos limites, j'ai envie de dire.
Oui.
Il s'avère qu'aujourd'hui, il y a quand même une limite, il y a une classe qui s'appelle la classe ultime, dont oui. les bateaux doivent pas mesurer plus de 32 mètres.
Mm-hmm.
Mais par exemple, il y a 4 ans, Yann Guichard était parti sur un bateau de 40 mètres de long. Donc,
ah oui.
Il a terminé deuxième, d'ailleurs, en l'occurrence, mm-hmm. d'ailleurs Loïc Perron. Et il avait le droit de partir, à partir du moment où le bateau est réglementaire au niveau sécurité, on peut partir sur n'importe quel bateau. Par contre, il y a une taille minimum qui est justement de 12 mètres pour éviter, ça a toujours été le cas hein, sur la route du Rhum, pour éviter que de trop petits bateaux prennent le départ, souvent dans des conditions quand même très musclées. Il faut savoir que il n'y a jamais eu de route du Rhum sans tempête.
Oui,
alors, il y a eu des routes du Rhum très très difficiles, la dernière ça a été le cas.
Oui.
Il y en a qui ont été un peu plus clémentes au niveau météo, mais sur la durée... c'est pas une balade de santé, quoi, là, à l'Odium. Donc, il faut des bateaux 12 mètres. On considère que c'est la taille qui est a priori la minimale pour faire ce genre de défi.
Ok, bien écoutez, le défi actuellement, là, tout de suite, pour ces deux ailes et délivrez-vous, c'est de faire une petite pause musicale et nous nous retrouvons tout de suite après.
Un petit feu pour démarrer, une caresse pour décoller. Si tu veux te réchauffer, faut savoir bien biguiner. C'est bon pour le moral, c'est bon pour le moral. C'est bon pour le moral, c'est bon pour le moral. Si t'as doudou bien balancé, ou playboy super sapé, et que tu cherches à t'amuser, la compagnie va te chanter. C'est bon pour le moral, chanter. C'est bon pour le moral, c'est bon pour le moral, c'est bon pour le moral. C'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon.
Nous nous retrouvons sur l'émission Délivrez-vous pour ces deux ailes avec Didier Ravon pour le livre sur la route du Rhum, un magnifique album aux éditions Gallimard. Alors, on le disait, voilà, il n'y a pas de règles, mais il faut un minimum au niveau de la taille du bateau. La course commence en début d'année. Alors, pourquoi à l'automne? Pourquoi pas faire ça au beau jour?
Alors, c'est une bonne question. Pourquoi pas au beau jour? Parce que au beau jour, en général, il y a beaucoup d'autres événements. Il y a une épreuve qui est le Tour de France à la voile. Une autre épreuve qui s'appelle la Solitaire du Figaro, qui est une course en solitaire sur des bateaux de 9 mètres. Mm-hmm. Et alors surtout, le point le plus important, c'est que autant si les bateaux partent au mois de juin, par exemple, de France, c'est sûr que on arrive dans les mois d'été. Mais par contre, il faut savoir que les Antilles, à partir de cette période-là, sont en période cyclonique.
Et
donc il y a un risque réel au niveau météorologique. Oui. Donc l'idée, c'est que toutes les transats, hein, quelles qu'elles soient, en tout cas les transats au départ de France, partent toujours à peu près à l'automne, parce que à l'automne, c'est pas encore les grosses tempêtes qu'on peut avoir après Noël ou en janvier, voire février. Bon, même si cette année c'est pas le cas. Et par contre, après, l'Alizé est bien établie. On parle toujours de cet anticyclone des Açores et l'anticyclone des Açores, la position de l'anticyclone des Açores qui nous amène en général du beau temps quand il est bien gonflé sur l'ouest de l'Atlantique. Quand il y a cet anticyclone, il y a de l'Alizé, et quand il y a de l'Alizé, il n'y a pas beaucoup de risques de mauvais temps aux Antilles, en Guadeloupe notamment. Donc c'est pour ça que cette course part toujours au mois de novembre.
Et puis il est vrai qu'aux Antilles, novembre, décembre, janvier, février, il y fait beau, il y fait chaud, et c'est idéal. Alors, pour naviguer, je ne sais pas, mais en tout cas pour y arriver, y séjourner un petit peu, c'est l'idéal. Voilà. Je ne fais pas le touriste, l'agence touristique, mais voilà, c'est sans doute pas mal aussi.
Non, mais je me permets de rebondir parce que il faut aussi savoir que là, on parlait du Rhum pour faire des petits ponches, mais à l'époque en 76, quand ils ont eu cette idée, la Guadeloupe avait commandé un sondage auprès des Français et il y avait un Français sur trois qui savait à peu près où c'était, et il y en avait deux sur trois qui étaient incapables de
situer la Guadeloupe
sur une carte.
Ah oui, quand même.
Donc c'était aussi une façon de faire connaître les Antilles. D'ailleurs, s'il y a eu un développement touristique énorme ensuite, c'est grâce aussi à la Route du Rhum, où les gens ont eu envie justement d'aller goûter cette douceur des îles dans un pays où on parle français, où la culture est caraïbe, mais un pays qui a des îles qui sont rattachées. Donc forcément, ça a été ils s'en sont jamais cachés. D'ailleurs, la course s'appelle Route du Rhum, destination Guadeloupe. Donc il y a forcément un côté touristique essentiel, bien sûr, là-dedans.
Oui, peut-être même que les Français, certains Français, ne savaient peut-être même pas que c'était des départements français d'outre-mer. après tout.
Absolument, oui, non, il y avait une
véritable ignorance à ce niveau-là, un manque d'information,
un manque de connaissance par rapport à ça, ouais. qui était évident. Oui, c'est aussi comme ça que ces îles d'outre-mer ont
pu se développer aussi,
ont commencé un peu à se faire connaître.
À se faire connaître et à se développer aussi.
Et à se développer, bien sûr.
Économiquement parlant. Alors, l'album, là, donc, c'est pour les 40 ans, puisque c'était pour fin 2018. Il retrace, bien sûr, les bons et les mauvais moments avec des photos, des textes, enfin, tout est magnifique. Alors, question peut-être, j'enfonce peut-être une porte ouverte, mais pourquoi avoir choisi de faire cet album pour les 40 ans ?
Écoutez.
moi,
il s'avère que j'avais toujours, j'avais 18 ans quand il y a eu la première Route du Rhum, j'étais encore étudiant, je me rappelle cette course, elle m'avait totalement fasciné dès le début. J'ai eu la chance après, par mon métier, d'en suivre un certain nombre. Mon plus beau souvenir, c'est sans aucun doute l'arrivée de Florence Artaud
en 90.
À Pointe-à-Pitre de nuit, même si c'était la foire d'Empoigne, on se faisait écrabouiller les pieds par les journalistes, où le ponton était à moitié en train de couler. C'était Florence qui avait fait la police en disant calmez-vous, alors que
ça m'étonne pas d'elle.
Il y avait une liesse incroyable, enfin bref.
Ouais.
Et donc moi j'avais toujours quelque chose qui me tenait à cœur, et en fait en l'occurrence c'est Gallimard qui a toujours eu des liens très étroits avec le magazine Voiles et Voiliers, qui m'a contacté en me disant est-ce que ça vous intéresse de faire un livre, parce qu'on pense que pour les 40 ans, c'est bien de le faire.
D'accord.
C'est parti de là, en fait.
Alors, comment s'est passée la construction de cet album ? Je suppose que ça a demandé beaucoup de travail, de recherche, de palabres, peut-être, au niveau de l'organisation. Comment ça s'est passé ?
Alors, non, il n'y a eu aucune palabre avec l'organisation, parce qu'on n'était pas livre officiel, donc on était... ça permet d'avoir une très grande liberté.
Oui.
En fait, moi, je suis parti de deux. Enfin, moi, il y avait deux choses qui étaient hyper importantes pour moi. De lire aucun des. Je crois qu'il y a eu 17 bouquins qui sont sortis depuis le début de la Route du Rhum. Donc,
ne pas me faire
polluer par des livres qui auraient été écrits avant.
Mm-hmm.
Donc, ça, c'était la première chose. Et la deuxième chose, je voulais absolument avoir des anecdotes de vive voix avec des skippers. Et je me suis aperçu que le temps aidant, les langues se déliaient, ils racontaient beaucoup plus facilement les choses. Donc ça, Donc là, en effet, j'ai passé beaucoup de temps à les joindre, à les rencontrer, pour qu'ils me racontent un peu des
anecdotes.
Des anecdotes, des souvenirs.
Des souvenirs.
Et donc ça, c'était ça m'importait, parce que moi, je voulais quand même faire un livre vivant et puis qui soit accessible à tout le monde. C'est-à-dire que si on ne parle que de technique, de météo, de génois, on intéresse forcément les passionnés, mais la Route du Rhum, c'est une aventure. Totalement incroyable. Donc moi, ça, c'était un truc qui était hyper important pour moi. Et donc le plus gros du boulot, en fait, ça n'a pas été tant la rédaction que ça, mais c'était d'aller chercher toutes ces archives, notamment les archives sonores. J'ai passé beaucoup de temps avec Lina à récupérer des interviews de l'époque, avec notamment Loïc Karadec.
À la cola.
J'ai passé aussi beaucoup de temps avec son meilleur copain, qui était son co-skipper à l'époque, Philippe Fac, qui me racontait des choses que j'avais jamais entendues. J'ai interrogé beaucoup de navigateurs, en fait. Donc ça, moi, je voulais aussi apporter, sans forfanterie, je voulais vraiment apporter quelque chose de nouveau, parce qu'encore une fois, il y a eu 17 livres qui ont été faits. Il y en a eu, là, rien que sur la Route du Rhum, il y en a eu 6 encore cette année. Donc, il fallait essayer de se différencier un peu, quoi. En tout cas, c'était mon objectif.
En tout cas, objectif réalisé et atteint, puisque c'est un livre vraiment magnifique, qui fait rêver, très agréable à lire, à regarder. Et puis, vraiment, les photos, les images sont vraiment très belles. Est-ce que l'on peut, Didier Ravon, parler de solidarité entre les marins?
Ah bah oui, carrément. Je dirais même que c'est non seulement ça fait partie de l'ADN de la voile, mais c'est même en plus c'est même obligatoire. C'est-à-dire qu'en mer, on n'a pas le droit, par exemple, de laisser quelqu'un tomber si jamais il appelle au secours. Il envoie un SOS. Qu'on soit sur un voilier, qu'on soit sur un cargo, qu'on soit sur un ferry, à moins d'avoir vraiment un problème important de son côté, soi-même, si on ne le fait pas, on est passible de sanctions pénales. Donc ça, c'est quelque chose qui est, qui est dans le règlement international, première chose. Et puis, il y a une solidarité incroyable entre les marins. C'est une évidence. Et c'est vrai que dans la route du Rhum, notamment, il y a eu quelques exemples conséquents et intéressants de gens qui sont allés chercher d'autres concurrents qui étaient en difficulté. Ça fait totalement partie de la course au large. Ça, c'est quelque chose qui c'est même tout tendance à même plus loin que ça. C'est-à-dire que si un bateau abandonne, ben il va prêter une voile à quelqu'un qui est encore en course. Donc ça, c'est des trucs qu'on ne voit pas. Qu'on ne voit pas dans d'autres sports, enfin pas à ma connaissance en tout cas.
Aucun sexisme ?
Oh là là, alors là.
Parce que vous voyez, dans l'imagerie populaire, peut-être que c'est moi aussi qui ai cette image en tête, on imagine les marins très masculins, virils, jaloux de leur prérogative, de leur histoire et leur histoire de marin et de ce métier de marin. Est-ce que les femmes y ont leur place ?
Écoutez...
Bon, bien sûr, il y a eu Florence Artaud, il y en a eu d'autres, mais...
C'est sûr que si on regarde sur l'évolution de la marine à voile et de la voile en général, il faut pas se cacher, ça a toujours été un sport essentiellement masculin. Il faut pas se cacher non plus, il y a quand même plutôt des machos hein, dans ce milieu. Enfin, j'ai envie de dire, il y avait, parce que c'est de moins en moins le cas. Il y a eu quand même des contre-exemples. Ben, on a parlé de Florence Artaud.
Bien sûr, oui.
On a parlé de la jeune anglaise Hélène MacArthur.
Tout à fait. Extraordinaire. Extraordinaire navigatrice. Extraordinaire.
Là, cette année, alors, la prochaine Route du Rhum, il y aura énormément de femmes, parce qu'il y a de plus en plus de femmes qui veulent faire le Vendée Globe. Je crois qu'il y en a 6 ou 7 qui sont préinscrites aujourd'hui.
Bravo.
Donc, comme je vous disais, ça fait partie, comme la Route du Rhum fait partie des épreuves de préparation ou post-Vendée Globe, il y en aura de plus en plus. J'ai envie de dire que, il y a encore du boulot hein, pour avoir la parité, mais il y a de plus en plus de femmes qui arrivent dans le bateau, qui sont ultra compétentes, très méthodiques, qui sont en général qui se la jouent moins que les garçons, j'ai envie de dire. Et par contre, ce que je vois, parce que ça, je vois tout le temps sur les pontons, il y a un énorme respect de la part des garçons pour les femmes aujourd'hui. Ça, c'est
bien.
Ça, j'ai envie de dire que c'est quand même assez récent dans l'évolution.
Alors, ce livre, hein, je le disais, c'est les bons et les mauvais moments, enfin, en tout cas, de merveilleux souvenirs avec des anecdotes de belles photos. Quand on écrit un livre comme cela et qu'on le referme, on est prêt pour d'autres aventures littéraires ?
Oui, on est toujours prêt. Enfin, en fait, quand j'ai fini ce bouquin, on rentrait dans la préparation de l'édition 2018. Donc là, j'ai travaillé beaucoup pour mon journal sur la Route du Rhum. J'ai travaillé aussi beaucoup pour Libération, puisque j'ai couvert la course pour eux. C'est bien qu'en fait, j'ai fermé ce livre, mais j'étais totalement imprégné de la Route du Rhum d'avant, Routes du Rhum d'avant. Et puis là, je me suis mis dans l'actualité, puisque dans ce livre, en fait, on ne parle pas de la dernière édition, hein, on parle juste de l'avant-dernière édition.
Oui, tout à fait.
Ensuite, après, c'est des opportunités. Ce qui est sûr, c'est que moi, j'aime pas refaire deux fois la même chose, donc je me verrais mal refaire un livre sur la Route du Rhum. J'aurais l'impression de plus savoir quoi raconter d'autre.
Oui.
Mais on a une chance incroyable, nous, les journalistes et puis les gens qui rédigent ce genre de choses, c'est qu'il se passe toujours quelque chose. Il y a toujours des aventures formidables. On parlait du Vendée Globe, mais il y a la Transat 650, qui est une Transat sur des bateaux de 6,50 m, des Globes de Noix, qui partent de France et qui arrivent aussi aux Antilles. Il y a eu cette course extraordinaire vintage avec le Français Jean-Luc Vandelette qui a bouclé ce tour du monde sur un bateau de 10 mètres en 212 jours, ce qui est quand même incroyable, alors que le record du monde aujourd'hui, il est de 42. Donc, on a une chance incroyable, il y a une richesse pour raconter des histoires extraordinaires. Donc, quand les opportunités se présentent, c'est sûr qu'on a du mal à les laisser passer. Encore une fois, c'est un privilège d'écouter ces gens pour raconter leurs aventures. On s'identifie, hein, forcément.
2022, vous serez sur le pont, Didier Ravon ?
J'espère bien, oui, j'espère bien. Moi, j'ai toujours du mal à me projeter, mais je me dis toujours qu'est-ce que je ferais. Mais oui, je suppose.
Bien. Donc, écoutez, on espère en tout cas que cette nouvelle édition se passera bien. Alors, on le disait, c'est tous les 4 ans depuis 1978, parce que cela demande beaucoup de. Parce que certains, quand je disais que je préparais l'émission, me disaient ah bon, c'est pas tous les ans. J'ai dit non, tous les ans, ça demanderait une organisation, ce serait quasiment impossible. C'est tous les 4 ans. C'est avec l'organisation que ça demande, les années paires, voilà, tout simplement. La première étant de 1978 et la dernière en date, c'était fin 2018. Je vous remercie infiniment. Alors, est-ce que, rapidement, vous êtes d'autres projets d'écriture, hormis bien sûr la course du Rhum? Alors, vous l'avez dit, vous travaillez pour différents supports, mais sinon, vous, proprement, écrire quelque chose, vous, Didier Ravon, vous avez un projet en ce sens?
Pour l'instant, non. Pour l'instant, les projets qui sont d'ailleurs pas du tout définitifs, notamment avec l'édition Gallimard, ça a été un vrai bonheur de collaborer avec.
Ils font toujours des livres,
pour moi une vraie fierté. Il y a des projets, mais en tout cas, ça sera forcément soit sur des courses, soit plutôt sur des marins, mais pas sûrement pas sur moi.
D'accord.
C'est pas grand-chose à raconter, c'est plutôt les histoires
bien sûr
que j'ai envie de raconter.
Bon. La route du Rhum aux éditions Gallimard avec par Didier Ravon sur cette magnifique route du Rhum. C'est un très beau livre à faire en cadeau pour initiés et non-initiés. Peut-être que ça donnera à certaines auditrices et auditeurs, eh bien, pourquoi pas de rejoindre cette prochaine édition en 2022. Je vous remercie infiniment d'avoir accepté mon invitation pour délivrer vous et ces deux ailes. Et puis, je vous souhaite bon vent et à une prochaine fois, peut-être.
Merci beaucoup. C'est moi qui vous remercie de m'avoir invité. Et puis, bon vent et j'ai envie de dire bon printemps au bord de l'eau.
Oui, bon printemps au bord de l'eau. Merci Didier Ravon. Merci, au revoir.
Merci beaucoup.
Au revoir.
Au revoir.